chrétien que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 1er. Ce n'est pas un texte qui vous est inconnu, notamment dans sa deuxième partie, que je ne méditerai pas spécialement aujourd'hui, parce que je m'attarderai aux deux premiers versets que nous allons lire. Mais pour avoir une idée d'ensemble, nous lirons sept versets. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. J'espère qu'il n'y a pas que à être dans ce positionnement. J'espère que chacun de nous, même si nous ne pensons pas faire partie des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires, nous avons cette même possibilité. Être empressé auprès de Jésus, avide d'écouter ses paroles. Alors bien sûr, il y a toujours des gens à qui Jésus ne convenait pas, notamment les pharisiens et les spécialistes de la loi, des gens qui n'avaient rien à apprendre de quiconque. Ils étaient, eux, suffisants, ils étaient, eux, exemplaires dans leur pureté, dans leur enseignement. Il n'y avait rien qui puisse leur être reproché. Donc c'est eux qui font le reproche. Attendez, ce Jésus, cet individu fréquente des pécheurs notoires et même s'attable avec eux. Ça, c'est encore le supplément catastrophique. Parfois, en passant dans la rue, les pharisiens ne pouvaient pas s'empêcher de rester à 2 mètres de la personne qu'ils ne voulaient pas toucher. Mais là, Jésus va beaucoup plus loin. Il s'attable carrément avec ces gens-là. Alors, devant cette situation que nous allons commenter tout à l'heure, Jésus a une réaction. Il va, selon son habitude, inventer une parabole, une histoire qui illustre ce qu'il vient de remarquer. Et voici ce que Jésus raconte. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Je ne commenterai pas tout à l'heure la parabole en elle-même. Juste une remarque en passant. Jésus a face à lui des pécheurs qui savent qu'ils sont pécheurs et qui viennent à Jésus parce qu'ils pensent trouver quelque chose auprès de lui. Par ailleurs, vous avez ces pharisiens et ces gens de loi à qui rien ne manque, qui sont suffisants en eux-mêmes et qui ne savent pas que eux aussi font partie du plan de Dieu. Eux aussi sont des brebis. Font-ils partie des 99? Sont-ils aussi compris dans celle qui s'est perdue? Jésus laisse la question ouverte à chacun de se positionner par rapport à la parabole de Jésus. Mais il y a pour Dieu un troupeau qui lui appartient, un peuple qui lui appartient. Et Jésus nous dit que le berger est prêt à abandonner la majorité de ses brebis, 99, à cause d'une seule. Alors c'est significatif parce que je me suis dit, mais quel culot ce berger quand même. Il largue le troupeau au complet à cause d'une petite brebis perdue. En fait, nos traductions trahissent un petit peu parce que les 99, où se trouvent-elles ?
Dans le pâturage.
Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Jésus a choisi pour décrire l'amour de Dieu le meilleur endroit pour laisser ceux qui appartiennent à Dieu. Le pâturage, le vert pâturage, gras, succulent. Quant à lui, il ne se contente pas de s'occuper de ces brebis qui appartiennent au berger. Il est en souci pour celle qui est abandonnée. Il va mettre en sécurité dans le pâturage l'ensemble du troupeau pour courir après la seule qui est perdue. Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit « Venez, venez, partagez ma joie, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel, car il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'ont besoin de rien. Ah là là, les pharisiens devaient se dire, si nous prétendons faire partie des 99, eh bien, pas de joie au ciel. De quel troupeau faisons-nous partie? Je vous propose maintenant un chant que certainement vous connaissez et qui en français s'intitule « Celui qui met en Jésus une pleine confiance ». Qui le connaît? Voilà, il y a un certain nombre de doigts. C'est un chant ancien, mais actuel. Chantons-le. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus complète. Et sa délivrance. Si vous avez envie de vous lever, il n'y a pas de souci.
Que tu sois mon assurance.
Reprendre place. Alors, quel rapport entre ce chant et le texte biblique que nous avons lu à l'instant? Quel est votre avis sur la question? Par la foi, la confiance en, nous pouvons nous en sortir. Effectivement, il y a un lien étroit entre le chant et le texte que je vous ai proposé. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'allons pas méditer spécialement sur la parabole elle-même. Je dirais simplement que ce chant est peut-être le chant de la brebis perdue, qui a compris plein de choses au moment où Jésus l'a tiré d'affaire. Et il me semblait intéressant, ce matin, de nous poser une question par rapport à tous ces chants que nous chantons dimanche après dimanche. Quel est le sens d'un chant ? Dans la Bible, il y a un beau verset que j'aime énormément et que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui se trouve dans Hébreux 11, au verset 1. Qui connaît Hébreux 11, verset 1? Sans prendre son téléphone ni sa Bible.
La foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Oh là là! Oh là là, c'est beaucoup plus simple que ça. Nous tous qui sommes entourés d'une nuée de témoins, Hébreux 12, verset 1, ce que vous avez... 11, j'ai dit 11. Mea culpa. Donc je vous laisse réciter le 12, verset 1. Pour me faire pardonner. 12, verset 1. Attendez, je voulais presque citer. Nous tous, donc, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons, rejetons tout fardeau. Oui, plus fort. Voilà. Donc, je veux juste souligner dans ce verset le fait qu'une foule de témoins nous entoure, et le but de cette foule de témoins, c'est de nous encourager dans notre vie à suivre Jésus. Quand nous faisons partie des disciples de Jésus, je l'ai dit il y a 15 jours en arrière, nous faisons partie d'un corps que Dieu a créé, qui est composé de qui ? Le corps de Jésus, le peuple de Dieu, est composé exclusivement de petites brebis perdues dans la nature. Exclusivement. Nous sommes donc des pécheurs, au vrai sens du terme. Ne faites pas la grimace, nous sommes des pécheurs que Jésus a graciés par son sacrifice et que Dieu a reconnu comme faisant partie maintenant de son troupeau. Des pécheurs. Voilà, ce matin, bienvenue à cette bande de pécheurs que nous sommes. Graciés par Jésus-Christ. Alors le chant que nous avons chanté, celui qui met en Jésus une pleine confiance, nous vient justement de l'un de ces nombreux témoins qui nous entourent géographiquement, historiquement, dans le temps, ces témoins que le Seigneur Jésus a tirés du péché pour en faire des disciples. Et j'ai trouvé intéressant de ne pas fermer les yeux sur ces témoins. Parfois nous chantons des chants, nous ne savons pas qui les a écrits, dans quelles circonstances, pourquoi, comment. Nous les chantons parfois même, et c'est là le problème, en ne pensant à aucune parole que nous prononçons, ni même à la mélodie, nous suivons le rythme. Parfois il y a des chants, nous sommes incapables de les rechanter une deuxième fois parce qu'on a perdu la mélodie. Ce chant a pour auteur un pasteur allemand qui vivait dans les années 1700, c'est-à-dire 18e siècle. Et le chant a été composé précisément en 1718. Et le titre du chant à l'époque, Jesus nimmt die Sünden an, signifiait Jésus accepte les pécheurs et s'attable avec eux. Jésus accepte les pécheurs. Retenez ce thème pour ce matin. Il a fallu une centaine d'années pour qu'une citoyenne de Grande-Bretagne s'intéresse au chant allemand. Et cette brave dame s'est mise à traduire ce chant précisément en anglais. Le pasteur luthérien allemand, qui était pasteur pendant 41 ans à Hambourg, chaque fois qu'il avait prêché, résumait sa prédication dans un chant. Et ainsi, il a écrit pas moins de 650 hymnes qui existent en langue allemande, dont celui sur Luc 15, verset 2. Jésus reçoit les pécheurs. Bien sûr, il a aussi pensé aux pharisiens et aux spécialistes de la loi juive qui grognaient. Mais il ne s'est pas attardé sur leur cas, apparemment. Il s'est soucié de leurs reproches. Cet individu-là, ce Jésus, que les foules se mettent passionnément à suivre, ce n'est pas un pharisien, quelqu'un de pur. Ce n'est pas un envoyé de Dieu, quelqu'un d'honorable. C'est n'importe qui se mêle aux vulgaires gens qui nous entourent. Ce Jésus reçoit les pécheurs et s'attable avec eux. Alors j'ai pensé à ces chrétiens qui vivaient autour de ce pasteur il y a 300 ans. Et je me suis dit, c'était des chrétiens comme nous, sauvés par grâce du péché, mais ayant tout à fait oublié qu'ils étaient des pécheurs. Des pécheurs graciés. Et donc ils traitaient les autres comme des renégats, comme des personnes à rejeter. Eux, au contraire, vivaient désormais dans une atmosphère plus saine et plus respectable. Bien des chrétiens ne se mêlent pas aux pécheurs notoires, de peur d'être suspectés et déshonorés par leur fréquentation. Se mêler aux pécheurs, ce n'est pas se mettre à pécher. Il faut faire la nuance. Jésus reçoit les pécheurs, il s'attable avec eux. Ce n'est pas pour autant qu'il est lui-même pécheur. Bien que Jésus, dit la Bible, a accepté de devenir pécheur pour nous. Il n'a pas seulement fréquenté les pécheurs, mais il a accepté le reproche. Je reçois les pécheurs. Je me charge d'eux comme le berger s'est chargé de la petite brebis perdue qu'il a retrouvée. Je me charge de votre péché pour le porter à la croix. C'est cela l'œuvre de Jésus. Jésus accepte et accueille les pécheurs. Et dans la première strophe, qui n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons chantée, le pasteur allemand insistait sur le fait que ce reproche des pharisiens est tellement vrai que personne ne doit l'ignorer. Puisque Jésus accepte les pécheurs et s'attable avec eux, il faut proclamer cette bonne nouvelle. Et la première strophe du chant allemand dit « Assemblée, allez, dites à tous ce message simple, Jésus accueille les pécheurs et s'attable avec eux. » Programme de cette semaine à venir pour nous tous. Dire au premier venu que nous aurons en face de nous, Jésus accepte les pécheurs et s'attable avec eux. La personne va vous dire, mais attends, tu me prends pour un pécheur, alors que je suis un bon chrétien. J'ai été baptisé dans l'église du coin. Je ne m'en souviens pas parce que j'étais nourrisson. J'ai des parents honorables. Chez nous, on vit une certaine droiture. Jésus accepte les pécheurs et s'attable avec eux. Alors, Emma Bevan, cette citoyenne britannique, épouse d'un riche et important banquier, a choisi ce chant parmi les premiers qu'elle a traduit en anglais. Jésus reçoit et accepte les pécheurs et s'attable avec eux. Elle a d'ailleurs fait sa spécialité de chrétienne en devenant traductrice de chants allemands en anglais. Alors, cela ne nous donne toujours pas l'origine de notre chant français à celui... C'est comment le titre ? Celui qui met en Jésus. Mais toujours est-il que je veux d'abord résumer le contenu du chant allemand. Le chant est un hymne, une ode à la grâce de Dieu accordée à toute personne pécheresse qui accepte Jésus et qui voit sa vie transformée parce qu'il atterrit sur les épaules de Jésus et il est porté pour la joie. Celui qui suit son maître Jésus expérimente la conduite du Saint-Esprit, la découverte de la vérité de la parole de Dieu, la Bible. Mais ce chant est aussi une ode à la proclamation de cette grâce, totalement imméritée, au plus grand nombre. Allez et dites, Jésus accepte le pécheur. Et enfin, ce qui apparaît dans ce chant en allemand, c'est cette dernier aspect, la révélation, l'anticipation de la joie à venir. Jésus va appeler ses voisins dans la parabole, ses amis, venez vous réjouir avec moi, Faisons le banquet des retrouvailles. J'ai trouvé la brebis perdue. Et c'est exactement ce que Jésus nous propose. Un verset dans l'Apocalypse nous dit « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage, car bientôt les noces de l'agneau sont là, sa fiancée s'est préparée. » Dans la Bible, Jésus est à la fois le Sauveur et l'objet du sacrifice. Il est l'agneau. Et nous vivons en pécheurs graciés, invités à ces noces, car nous devenons, par l'acceptation de Dieu, membres de son corps, l'épouse, la fiancée de l'agneau. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour notre gloriole, pour nous sentir meilleurs que d'autres, pour nous sentir délivrés du péché. Non, nous sommes sauvés pour nous réjouir, pour nous préparer à ce fameux banquet qui se passera à la fin de l'histoire, lorsque Jésus reviendra et nous prendra avec lui. Mais ce banquet, il est uniquement pour ceux que ce chant appelle des pécheurs. Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot pécheur. Mais je pense qu'il faudrait peut-être cesser d'appeler les gens comme nous des chrétiens. Nous sommes des pécheurs graciés, des pécheurs heureux, parce que nous ne portons plus le fardeau du péché. La tentation est encore là, mais nous avons la puissance de Dieu pour nous aider à résister à toutes les tentations. Grâce à Jésus, nous sommes des pécheurs que Jésus accepte, avec qui il s'attable et avec qui il s'attablera encore dans le ciel. Voilà donc ce chant que nous chantons, qui a été composé il y a 300 ans. Vous vous rendez compte? Je me dis parfois, si cet après-midi je compose un chant, est-ce que dans 300 ans, il y aura encore des gens pour le chanter? Aïe, aïe, aïe. Alors, la version française, en fait, elle a aussi son histoire. Et j'aime beaucoup l'histoire des cantiques parce que, quelque part, ça nous révèle qui sont ces témoins qui nous entourent pour nous encourager. Il a fallu attendre encore un siècle de plus pour qu'une chère Suissesse du nom d'Amélie Imbert, née à Neuchâtel, l'autre côté de la frontière, se lève. Une jeune fille qui a fréquenté l'armée du salut. Tout le monde ne sait pas ce qu'est l'armée du salut. Nous connaissons l'œuvre sociale, mais connaissons-nous l'œuvre spirituelle de l'armée du salut? Pour son fondateur, William Booth, c'était les trois S. Soupe, savon, salut. On ne pouvait pas annoncer Jésus-Christ à quelqu'un qui souffrait de la faim. Mais on ne pouvait pas, après avoir nourri la personne, lui annoncer le salut s'il ne se sentait pas à l'aise dans son corps. D'où le savon. Ça, c'est l'œuvre sociale. Soupe, savon. Mais pour l'armée du salut, ça ne suffisait pas. Il fallait le salut. Et le salut, c'est Jésus. C'est donc un tout. Et cette jeune fille, Amélie Imbert, était donc active à l'armée du salut pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ses parents l'entouraient de leur affection et en tant que jeune fille, elle a décidé de rester célibataire. C'était une personne qui voulait sa liberté. Je veux courir, notamment courir jusqu'en Grande-Bretagne où Amélie a découvert, la traduction anglaise, du chant du pasteur allemand et c'est elle qui nous livre les paroles que nous avons chantées. C'est pour ça que si vous prenez un recueil, vous avez sur la gauche le nom de l'auteur, A. Imbert, et sur la droite, le compositeur de la musique. Amélie Imbert tenait donc, dans sa fougue, à révéler au monde entier que le salut n'était qu'en Jésus. À celui qui met en Jésus sa confiance, la victoire. C'était son message. Et c'est pourquoi nous avons ce chant de 300 ans, qui a été remanié, parce que ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation. Amélie Imbert, décédée en 1936. Une jeune fille qui notamment a milité pour le droit des femmes, faisant sa cause du problème de la prostitution. Il fallait des lois pour que les femmes soient protégées. Et il fallait des lois pour que les femmes puissent dire leurs mots. Et en Suisse, elle a été à l'origine du suffrage pour les femmes. En France, les femmes votent depuis quand? Quelqu'un le sait? 47? Je sais que ma maman était surprise le jour où son fiancé lui a dit « Il va falloir que tu ailles voter ». Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Oui, c'était après la Deuxième Guerre qu'en France, on a permis aux femmes de donner leur veto aux lois qui allaient être promulguées. Donc Amélie Imbert était de ce style. On l'appellerait aujourd'hui une féministe. Mais une féministe au nom du Seigneur Jésus. Devant Dieu, hommes et femmes ont la même valeur, sont bénéficiaires du même amour, sont sauvés de la même manière du péché. Jésus s'assied avec les pécheurs et les pécheresses à la même table. Alors, c'est marrant parce que chez les Juifs, une femme ne pouvait pas s'asseoir à table avec les hommes. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes? Vous le lirez dans l'Évangile. Elles venaient par derrière toucher Jésus. Ou alors, elles allaient sous la table pour déverser leurs larmes sur ses pieds, pour lui verser du parfum. Elles avaient leur façon de s'attribuer de maître et de devenir des pécheresses sauvées par grâce. Voilà donc ce chant tellement, tellement passionnant qui n'a qu'un message: Jésus accueille les pécheurs. Et avec tout ça, on n'a toujours pas la musique. Christophe, tout ce que j'ai dit, tu le jouerais sur quel air? Alors bien sûr, nous n'avons pas la musique qui date d'il y a 300 ans du cher pasteur allemand dont je crois, je ne vous ai pas dit le nom. Par respect pour lui, je suis obligé quand même de vous le dire, il s'appelait Erdmann Neumeister, ce qui veut dire « nouveau maître ». Mais pour lui, c'est Jésus qui était le maître. Alors, l'histoire du compositeur est tout aussi passionnante et pour moi fait partie aussi de cette nuée de témoins que Dieu met à nos côtés pour nous encourager tant d'années après. Le compositeur, lui aussi, est né au début du 19e. À la fin du 19e, et il vivait encore au début du 20e. C'était un Américain du nom de James McGranahan. Il était le fils d'un très grand propriétaire terrien, fermier américain. Normalement, dans une ferme, c'était mon cas, on attend le premier fils, pour qu'il y ait un successeur pour reprendre l'affaire. Car on ne devient pas fermier n'importe comment. Et je comprends ce papa américain qui tenait à ce que son fils mette ses pas dans les siens et devienne le futur gérant de la ferme. Mais voilà, James avait une autre idée. Il aimait énormément la musique. Alors, pour lui faire plaisir, son papa l'a quand même laissé fréquenter une école de chant. Le problème, c'est qu'à 19 ans, il avait épuisé toutes les ressources que son enseignant était en mesure de lui donner. Et il avait besoin de plus. À 19 ans, il est devenu, après avoir fait des études plus poussées, professeur de musique populaire, musicien réputé et compositeur lui-même, d'hymnes. Il avait besoin de textes sur lesquels mettre ses compositions. Et notre chant, celui qui met en Jésus, est devenu un texte qu'il a branché. Jésus s'approche des pécheurs et se met à table avec eux pour les sauver. Je vais composer la musique pour ce chant précis. Alors bien sûr, le père était réticent à l'idée de laisser son fils poursuivre sa carrière. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que d'abandonner son fils à une autre carrière que celle qu'il préférait au fond de son être. Il l'a donc laissé étudier la musique à New York pendant 2 ans, 1861-1862. Il devint professeur et directeur d'un institut de musique avant de devenir un très talentueux chanteur et compositeur de gospel. C'était l'époque où il fallait relancer ce chant des Noirs américains qui, dans les rizières, dans les cultures, composaient avec les textes qui étaient les leurs, de beaux cantiques. Donc il a repris cela pour en faire sa musique. Et James Granahan et sa femme se sont associés au major Daniel White de l'Armée du Salut et ont travaillé pendant 11 années à proclamer ce merveilleux message: Jésus accueille et sauve les pécheurs. Il s'attable avec eux. Il a composé de très très nombreux chants et il a notamment évangélisé en dehors des États-Unis la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et curieusement, pour la petite histoire, James Granahan est devenu, peut-être à cause de sa passion pour le gospel, l'un des tout premiers musiciens à écrire des partitions pour des chœurs d'hommes. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt des chœurs d'assemblée mixtes, hommes et femmes. Il a mis au point les musiques pour les chœurs d'hommes liés au chant gospel. Alors ce James, paraît-il, était un gentleman très aimable, très doux, sans prétention, mais un chrétien avant tout, raffiné et cultivé. Un témoin que Dieu a placé sur notre route pour nous laisser sa musique que nous avons pu chanter ce matin. Alors où est-ce que je veux en venir par rapport au texte biblique? Pas ailleurs que là où le texte biblique nous emmène. Ce texte que Luc nous laisse nous rappelle que Christ est aujourd'hui encore ce seul personnage qui, comme de son vivant, fait exactement la même chose aujourd'hui. qu'il a fait à l'époque. Jésus, aujourd'hui, reçoit, accueille sa table avec le pécheur que je suis, avec la pécheresse que tu es, avec le pécheur que tu es. Si tu penses être juste, tout savoir mieux que Dieu, pharisien, docteur de la loi, puriste, sans péché, Jésus n'a pas de place dans ta vie. Mais si tu te sens foncièrement pécheur, Jésus t'accueille. Il te prend et il t'a pris. Il nous a portés jusqu'à Golgotha, où, à cause de notre péché qu'il portait sur ses épaules, il a été condamné, sacrifié, crucifié. Il est mort. Jésus est le même aujourd'hui. Et dans le chant allemand, beaucoup plus que dans notre chant français, on remarque dans les quatre strophes ce crescendo. Dans la première strophe, Jésus reçoit les pécheurs maintenant, aujourd'hui en 2024, ici à La Ferté-sous-Jouarre. Et ce qui permet à Jésus de nous recevoir, ça s'appelle la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Nous sommes tous, que nous voulions ou pas, des vrais pécheurs notoires. Il n'y a pas de juste parmi nous, pas même un seul. Mais Dieu a décidé que puisque le pécheur doit mourir, puisque le pécheur ne peut pas être en communion avec Dieu, mais aussi, puisque le pécheur n'a aucun moyen de se tirer d'affaire, par amour, Dieu a décidé, c'est moi qui vais faire le pas. J'envoie mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection, il sera votre sauveur, celui qui s'assied avec vous, celui qui prend votre péché, si vous êtes un passionné pour l'écouter et pour devenir son disciple. Voilà ce que dit la première strophe. La deuxième strophe insiste sur le fait que même les plus pécheurs, Dieu leur donne un vrai repos. Ils ne sont pas poursuivis par leurs péchés. Ce serait terrible de réaliser que Jésus nous a sauvés et que nous sommes obligés de continuer à porter notre péché. Un non-sens. Cette deuxième strophe insiste justement pour nous chrétiens que le fait d'être un pécheur gracié, ça doit nous parler. Nous ne sommes plus obligés de vivre dans le péché. Nous ne sommes plus obligés de pratiquer le péché. Nous ne sommes plus obligés d'être dépendants des influences du péché. Nous avons la victoire en Jésus, qui n'est pas venu pour des justes, pour des gens qui pensent qu'ils peuvent se débrouiller, vivre une vie à peu près honnête, à peu près sage, à peu près honorable. Non, le chrétien devrait toujours se considérer comme pécheur. Pécheur gracié par Jésus. C'est donc Jésus qui devient important, c'est pas moi. Le péché a perdu son pouvoir. Jésus est le sauveur. Et nous devons nous abandonner à lui seul et pas à nos mauvaises habitudes. Nous pouvons croire à sa miséricorde et à son pardon et vivre librement consacré à lui. Et dans la troisième strophe de ce cantique, nous découvrons le but de Jésus. Jésus non seulement vient à notre rencontre de pécheurs, non seulement nous sauve du péché, mais nous purifie. nous lave totalement, enlève toute tache, parce qu'un chrétien porte en lui les marques de son péché, dans sa vie abîmée. Lorsque Jésus a pris sur lui notre péché, après sa résurrection, il était encore en mesure de montrer la marque de l'épée dans son côté, la marque des clous dans sa vie terrestre, avant son élévation. Le chrétien, tant qu'il sera sur terre, portera les traces de son péché pardonné, mais n'en souffrira plus, car Jésus le purifie, Jésus soigne la plaie. Et le but de Jésus, c'est de nous présenter, lors du banquet, sans tache, ni ride, rien qui rappelle le péché. C'est toute l'œuvre de notre vie. Jésus nous travaille, c'est ce que dit cette strophe. Et dans la quatrième strophe du cantique en allemand, il y a ce cri de victoire. Même si Satan veut encore te troubler, te rappeler ton péché du passé, ça apparaît aussi dans notre troisième strophe. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Un chrétien doit sans cesse se souvenir. Mon Sauveur a réglé le problème de mon péché. Plus personne ne peut me le reprocher. Ni même mon cœur ne peut me le reprocher. C'est du passé. Mes péchés sont partis. Oui, tout cela apparaît dans ces belles strophes du cantique. Et retenons le refrain. Assemblés, allez, allez proclamer que Jésus s'approche de tout pécheur aujourd'hui. Je termine avec une citation de cet évangéliste et écrivaine hollandaise bien connue, Corrie ten Boom. Vous en avez entendu parler ?
Oui, oui.
C'est une dame qui était dans les camps nazis, destinée à la mort, souffrant atrocement. Et toute sa vie, après sa libération, elle a été une évangéliste exceptionnelle. Et elle écrivait dans l'un de ses livres la phrase suivante. Quand vous acceptez Dieu comme votre Sauveur, lui, Rédempteur et Seigneur, il fait de vous son enfant. Quand vous acceptez Christ, Dieu fait de vous son enfant. Cependant, si vous ne l'avez pas encore accepté, faites-le maintenant. Il y a parfois des gens qui se disent chrétiens, qui vivent dans l'illusion. Il ne s'agit pas de produire un semblant de vie meilleure pour être chrétien. Il s'agit d'être accepté par Dieu. Et c'est seul par le Seigneur Jésus que Dieu nous accepte et qu'il fait de nous son enfant. Car Dieu ne supporte pas nos bricoles et nos péchés. Il faut qu'il soit enlevé par Jésus seul, notre Sauveur. Et Corrie ten Boom est l'une des rares qui, dans ses écrits, insiste sur cette réalité. Il nous faut comprendre ce que signifie être un enfant de Dieu. Vous savez ce que c'est un enfant de Dieu ? C'est quelqu'un qui a 20 sur 20 à son examen de catéchisme, qui a compris toutes les leçons et qui ne les applique pas. Être enfant de Dieu, c'est comprendre que Dieu est notre Père. C'est ça qui est important. Nous avons un Père qui nous aime, Nous faisons partie de lui, de sa famille. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Il se réjouit du fait que nous lui appartenons. Alors il n'est pas difficile, quand on réalise qu'on a un père, de se comporter en vrai enfant du père. Un père parfait, pas comme je le suis, comme vous l'êtes. Un père qui sait nous entourer, un père qui non seulement nous accueille, mais un père qui nous suit jusqu'au bout. L'apôtre Paul disait, Christ a accueilli les pécheurs, dont je suis le premier. Il n'est pas honteux pour un chrétien de continuer à dire, je suis un pécheur aimé, un pécheur gracié, un pécheur transformé, un pécheur victorieux par le fait que le Saint-Esprit l'a entrepris. Je suis un pécheur au service du Dieu qui m'a sauvé par Jésus-Christ. Que ce soit notre but dans cette nouvelle semaine. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre, que nous sachions la réaliser pleinement, pas seulement du bout des lèvres, mais dans la réalité de notre vie, et que nous produisions aussi ce fruit qui est digne de toi, ce fruit que l'Esprit se plaît à réaliser en nous. Accompagne-nous dans cette semaine et béni sois-tu.